vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio. C'est le dernier jour de la semaine que l'on passe ensemble, c'est même la dernière de 2024. Pour l'occasion, je vous proposerai bien quelque chose d'un peu spécial. Un décor inédit pour nos quotidiens parfois très gris. Un monde où on pourrait souffler, danser, s'émerveiller à nouveau, parce qu'au fond c'est ce qu'on cherche. Ce sentiment d'être porté ailleurs, de croire encore en la beauté, même fragile, même éphémère. Depuis des années, il y a des gens de l'ombre qui construisent ces décors, ceux de nos festivals, de nos fêtes, de ces instants suspendus où tout semble tenir par magie. Mais derrière cette magie, il y a des mains, des gestes précis, des idées folles et un savoir-faire unique. Des entrepreneurs, artistes, comme Jérôme Loget qui depuis son atelier en Mayenne à Coudray, bâtit des univers où nos vies se retrouvent un peu plus légères, plus belles. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir son monde, pas juste des scènes ou des structures, mais une passion. Une façon de résister à la morosité ambiante, de réinventer ce qui nous rassemble. Allez, venez, on va poser la première pierre ensemble. Jérôme, tu as commencé en tant que graphiste, aujourd'hui tu es scénographe et plasticien. Qu'est-ce qui t'a mené ici? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir celui que tu es aujourd'hui? Comment ça a commencé?
Ça a commencé, moi je viens du milieu associatif, puisque quand on avait 20 ans, à Chalon-Thiers, on avait créé avec des copains et mon ancien patron le Foirail, donc le festival Le Foirail. Et puis en parallèle, je me suis mis à mon compte moi en tant que graphiste, illustrateur. Pendant une petite dizaine d'années, mon parcours a été d'évoluer entre l'associatif et mon activité de graphisme et de communication visuelle. Donc mon travail, c'était principalement de faire de la créa pour les événements culturels. Donc c'était pas que des festivals, ça pouvait être aussi des théâtres, des structures. Il y en a eu plusieurs en Mayenne, plusieurs théâtres. Et puis beaucoup de création graphique aussi pour des artistes, pour des pochettes de CD à l'époque, quand il y avait encore des CD. Et puis la création de logos et d'identité visuelle au sens large.
Et alors comment on passe de la création d'un univers, par exemple sur une pochette d'album ou sur un visuel de saison culturelle, à finalement la création d'un univers, d'un monde sur un festival, un décor, une scénographie?
Je crois que c'est parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, mon souhait, c'était, avant de faire de l'illustration et du graphisme, c'était de faire des décors pour des films d'animation, type Wallace et Gromit, des décors en tout petit. Et comme j'aimais bien la musique, donc voilà, j'étais public dans les festivals, j'assistais à pas mal de concerts. Et donc avec ce festival de Foirail qu'on avait créé à Château-Gontiers, on réalisait des décors. Et finalement, la création visuelle, graphique en 2D, passer à la 3D, il n'y a qu'un pas. Et puis ça s'est fait petit à petit, donc avec le festival de Foirail, puis les Trois Éléphants, puis d'autres événements. Et puis je me suis retrouvé donc à faire des décors, pas en petit comme je voulais faire au début, mais en très grand maintenant.
Est-ce que tu peux nous parler de tes toutes premières créations, justement, de décors?
Ah ouais, c'est...
T'étais déjà bricoleur ou est-ce que t'as appris en faisant?
Alors j'étais bricoleur parce que je voulais aussi être menuisier petit. Donc ça s'est fait, la bricole petit à petit. J'ai aussi un peu travaillé dans le bâtiment par la suite pour arrondir des fins de mois. Quand j'ai lancé mon entreprise, en fait, c'était pas non plus Byzance, pas assez pour en vivre. Et puis, le bricolage, ça m'a toujours accompagné. En décor, je me souviens du Foirail, on avait fabriqué un bateau, une espèce de vieille nef à la Christophe Colomb, qui faisait barre. Je me souviens d'un gros décor, justement, aussi, qui était installé dans le cloître des Ursulines, donc pour l'une des dernières éditions du Foirail. C'était un bar avec une tour qui faisait trois étages. Donc c'était un bar déco, scénographié, en lumière, mise en lumière. Et sur cette tour, il y avait trois niveaux. Et donc, je me souviens, c'était le groupe Success qui s'était produit dessus. Donc, le DJ tout là-haut, le batteur au milieu, le chanteur debout sur le bar, la boule à facettes à 8 mètres de haut. Et ça faisait un objet insolite, un bel ensemble, qui était assez, qui avait très très bien fonctionné. Et je crois que ça a été le déclic pour continuer et en faire davantage.
Un décor de festival, c'est un monde éphémère, un paysage qui apparaît puis disparaît une fois la fête terminée. Mais est-ce que c'est ça aussi qui fait partie, qui participe à la beauté du métier ? Comment est-ce que toi, tu vis avec cette fugacité ?
Oui, qui peut être très frustrant, parce que déjà, ça passe très vite. Mmh. Et puis, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'intempéries et qu'on n'annule pas l'événement aussi. Donc effectivement, oui, parfois, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais après, c'est l'essence de tout événement annuel. Hein. On travaille maintenant à N-1, -2. C'est beaucoup d'investissement pour peu de choses, mais c'est toujours des grands moments. Donc, je prends l'exemple là des papillons de nuit cette année qui n'ont pas eu de chance. Ils n'ont fait qu'une soirée sur les 3 annoncées. La pluie a eu raison du festival. Donc, là, c'est des centaines et des centaines de personnes qui se retrouvent le bec dans l'eau, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Et un an de travail donc, qui disparaît, en fait, hein, sans voir le résultat comme on le souhaiterait.
Un festival, c'est quelques jours de concerts, de fêtes. Mais toi, c'est peut-être un an de travail, voire plus. Combien de temps est-ce que tu passes sur chaque projet ? J'imagine que c'est différent d'un festival à un autre.
C'est beaucoup de discussions. On essaie justement aussi d'anticiper le budget, parce que c'est aussi une histoire de budget. Et un an avant, deux ans avant, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on sait pas... Parfois, on commence à travailler sur une édition alors que celle à venir n'est pas encore passée. Donc ça, c'est doublement risqué. Mais ça fait partie du jeu. Là, les gros décors, en l'occurrence, c'est beaucoup de matériaux. Ça peut être aussi de la récupération. C'est un temps assez long à la réflexion et puis justement à l'élaboration financière du projet. S'il faut récupérer des objets insolites, il faut prendre le temps, il faut fouiner. Donc, tout ça, c'est assez long. Et après, il y a toute la partie fabrication, bien sûr, qui, ça peut être plus rapide parfois, mais... Effectivement, pour pouvoir arriver au bout du projet et pouvoir réaliser cette image qu'on avait en tête, il faut du temps, de toute façon.
Justement, comment tu procèdes, toi, un festival te contacte ou alors maintenant, tu as aussi peut-être une certaine habitude avec certains festivals, vous vous rencontrez, vous commencez à échanger sur une thématique. Toi, tu fais des propositions, tu imagines déjà des choses et comment ça se passe, cet échange, ce dialogue ?
Alors, c'est tout le temps différent. Chaque événement a sa façon de faire, sa façon de voir. Bien souvent, j'ai quand même carte blanche, parce qu'on connaît mon travail et puis ma façon de faire. Il y a parfois un thème. Les vieilles charrues, par exemple, ont toujours un thème. C'est leur affiche, donc, qui définit un univers. Donc l'idée, c'est de proposer un décor sur ce thème pour qu'il y ait une cohérence graphique sur tout l'événement. Et puis, parfois, non, c'est vraiment carte blanche,
Comment est-ce que toi, tu préfères travailler ? Est-ce qu'il y a une manière particulière, une approche qui, toi,
te stimule plus,
la carte blanche ?
La carte blanche, c'est bien. Mais la thématique, c'est intéressant aussi, parce que ça nous permet d'aller là où on ne serait pas allé naturellement. Donc ça met des petits défis. Donc c'est intéressant aussi. C'est un peu plus sport, parfois, parce qu'il faut trouver la bonne idée. Et la carte blanche, j'aime bien, parce que comme j'aime aussi travailler avec pas mal de gros éléments de récup, c'est de la collecte que je fais au long terme et j'ai beaucoup d'éléments qui peuvent être graphiques, visuels, que je stocke, que j'ai sous le coude et le jour où il faut faire une créa, j'ai ça. Voilà, il faut aménager cet espace ou construire une structure très haute, je pourrais le faire comme ça. Enfin, c'est de la petite soupe interne.
Et justement, tu parles de... tu parlais de ton entreprise, tu parlais de récupération de différents matériaux. Tu es seul, en fait, finalement, pour tous ces savoir-faire, puisque selon le matériel, on ne travaille pas de la même manière, j'imagine.
Alors, je suis seul. Il y a un côté saisonnier dans mon travail. Je suis seul à l'année. Mon entreprise ne comporte qu'une personne, moi-même.
Qui s'appelle le... Enfin,
chat. Chat, voilà. Chat, comme l'animal. L'hiver, c'est une étape de création, de dessin, de vie, de contact. Voilà, c'est ouais, fin d'automne, hiver, ça se résume un peu à ça. Donc c'est quasiment 3 mois de bureau, hein, c'est vraiment que du bureau. Très très peu d'interventions en atelier. Et puis après, ça démarre gentiment. Donc moi, je suis un peu touche à tout, donc j'en fais beaucoup. Et puis plus la saison arrive, puisqu'en général, les événements, hein, c'est souvent l'été, ça ne fait que s'accélérer jusqu'à fin août. Et donc, bien sûr, il faut des savoir-faire que je n'ai pas. Moi, je sais un petit peu tout faire, mais rien de très bien, en fait, finalement. Donc, quand il faut un vrai métallier, j'embauche un vrai métallier. Quand il faut un vrai menuisier, même chose. Et ça va pour plein de corps de métier. Hein. Ça peut être de la couture, travail du plastique. Enfin, il y a plein de compétences. Hein. Donc, ingénierie lumière, électricité. Et donc, chaque projet... C'est une équipe, et sur le plus gros projet, c'est jusqu'à 20 personnes. Parce qu'il n'y a pas que la fabrication, il y a aussi la prestation, installation sur l'événement. Et là où c'est très intense, parce qu'on a une deadline, hein, ça doit jouer le jour J. Donc il faut être une bonne équipe, bien solide, et tout envoyer à ce moment-là. Donc oui, on passe de 1 à 20.
Est-ce qu'il y a un décor peut-être en particulier qui t'a marqué, un projet qui a été peut-être plus challengeant encore pour toi par rapport à ce que tu avais pu faire avant et qui a marqué peut-être un tournant? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête quand je te dis ça.
Le barcraft du VNB. Il y a eu ça et puis aussi une tour vieille charrue avec un dragon qui crachait du feu. Ça, c'est deux points forts, je pense, dans mon parcours, en fait. Enfin, moi qui m'ont plu, qui m'ont parlé. Ce dragon vieille charrue, voilà, en fait, il avait juste de la présence. Et ça fonctionnait très bien. Et le craft au VNB Fest, c'est... C'est un gros ensemble, un bel ensemble, un peu post-apocalyptique. J'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, là, c'était très complet en fait, comme objet.
Tu disais, ça monte un peu crescendo tout au long de l'année. Et puis, il y a le moment de l'installation. Là, j'imagine, il y a un peu de stress aussi. On veut que tout tienne.
Oui.
On veut que... Puis, à un moment, quand on voit le décor qui prend vie avec les festivaliers qui se baladent au sein de ce décor, j'imagine, c'est aussi un moment émouvant pour toi et puis peut-être de soulagement aussi, je ne sais pas.
Bah, c'est le moment qui fait du bien, hein, quand on voit les gens être en admiration devant ou s'amuser, danser et puis être bien dans cet univers. Ouais, c'est une satisfaction. Après, d'être arrivé au bout du projet, c'est déjà une satisfaction. Ça commence là. Hein. C'est vraiment... pour moi, le meilleur moment, ça reste toujours la mise en lumière à J-1 d'un événement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et là, tout s'illumine, tout prend vie. Et on fait la créa lumière et ça, c'est, je crois que c'est le meilleur moment. Et puis après, quand le public arrive, effectivement, on espère que ça va plaire déjà, que ça va fonctionner. Mais en général, ça se passe assez bien, ça va.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait un projet où malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme tu voulais?
Non. Non. C'est pas arrivé.
Tu parles de mise en lumière, c'est intéressant. On parle de matière, d'assemblage, mais c'est aussi en pensant la lumière qui va se poser dessus, sur ces formes, ces structures.
Oui, alors c'est là où moi, je passe aussi la main complètement. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai un souhait, une vision, mais ça, c'est pas du tout ma partie. Et donc là, je suis très bien accompagné. Hein. Un super... ingénieur lumière qui s'appelle Camille Cotineau, qui fait toutes les créas, donc qui est un lighteux de la scène au tout début et qui a une fibre artistique assez exceptionnelle, on s'entend très bien. Et voilà, c'est encore notre métier, hein, mettre en lumière un décor, c'est pas faire vivre une scène, c'est pas faire vivre un spectacle au théâtre, c'est vraiment des choses différentes et lui il sait tout faire, donc c'est super. Et il a cette sensibilité aussi créative, donc voilà. C'est là où, effectivement, à un moment, moi, le projet, il m'échappe aussi. Hein, et d'autres prennent la main et le font vivre. Et c'est aussi pour ça que c'est un moment super pour moi. Parce qu'en fait, effectivement, quand je conçois un projet, j'ai cette vision du projet. Mais quand je le vois prendre vie, quand il passe dans les mains des autres et puis qu'il brille, je redécouvre le projet, en fait, parce que je... Voilà, je suis surpris. et agréablement surpris, parce que ça va au-delà de mes espérances, et puis voilà.
C'était Technicolor Life de Kokomo. Vous écoutez le grand format de la JT du local sur l'autre radio. Et à mon micro aujourd'hui, c'est Jérôme Loget, entrepreneur à Coudray et artiste plasticien. Il pense et construit nos décors de festival, vieilles charrues, papillons de nuit, chaînons manquants, trois éléphants et tant d'autres. Ce qu'on a pu dire, Jérôme, c'est que tu fais partie des métiers de l'ombre. Comment est-ce que tu aurais envie de décrire ta position au sein du spectacle vivant? À quel point ce travail à la fois visible et invisible est essentiel?
Essentiel... Ouais, je pense, enfin beaucoup, essentiel tant que c'est possible. Hein. Je me suis souvent senti non essentiel. Mmh. Hein, il y a eu le Covid, les JO n'ont pas été simples l'année dernière. Là, ce qui va se passer bientôt, ça ne sent pas bon non plus. Pour moi, c'est quand même essentiel, bien sûr, parce que ce sont des métiers, ce sont des histoires humaines, des emplois, mais c'est aussi le public, les gens, je crois que maintenant... ont envie de voir des choses, de belles choses. Il n'y a pas que dans les festivals, hein, c'est aussi dans les salons. C'est dans chaque événement, on le voit, de plus en plus de villes au moment de Noël, pour preuve, animent en lumière leur ville, leur architecture. C'est, voilà, c'est tout ça. Les gens ont besoin de rêver. Donc, y a la musique, y a les arts plastiques, les arts visuels en général. Enfin, voilà.
Déjà, si on peut parler peut-être de la période du Covid et puis cette année les JO, concrètement, toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu vis ces moments-là? Tu dois t'adapter? Comment est-ce que ça se passe?
On doit s'adapter et on le vit très mal, puisqu'on pense au dépôt de bilan direct. Hein. Le Covid, oui, c'était ça, puisque un pays à l'arrêt, pour ma part, ça a été l'annulation donc, de tous mes chantiers. Donc l'annulation de tous mes projets, de tous mes contrats. Ça a été l'annulation de manière rétroactive de mois de travail en amont. Parce que quand le premier confinement est arrivé en mars, j'ai réalisé que depuis le mois de novembre, je bossais pour rien. Que ça n'allait pas se faire. Et donc c'est assez compliqué financièrement à tenir. Après,
est-ce qu'il y a eu un soutien quand même pour, parce qu'on a parlé de certaines professions qui ont été mises plus en lumière que d'autres. Mais effectivement, ouais. Là, ici, il y avait
aussi... Ça a été très compliqué. Moi, je ne me suis pas arrêté, en fait. Hein. Donc j'ai réinventé mon activité. J'avais un camion des outils, j'ai fait du multiservice, hein. Clairement, puisqu'en fait les aides sont arrivées au bout de 6 mois et c'était des toutes petites aides. Dans le secteur culturel, les structures étaient maintenues, les intermittents avaient une année blanche et beaucoup d'entreprises en fait, du secteur n'avaient rien du tout. Et les aides ne compensaient pas du tout la perte d'activité et beaucoup ont déposé le bilan. Moi, j'ai eu la chance, si j'avais eu des employés, par exemple, à l'époque, c'était mort.
Tu as créé ton entreprise en 2001. Après 20 ans d'existence, une entreprise peut être très fragilisée, mise en danger. Avec ce type d'événement, finalement, rien n'est acquis ici aussi.
Les JO, l'année dernière, ont amputé mon chiffre d'affaires de la moitié. Alors, c'est dur à expliquer, mais c'est pas parce que les événements ont été annulés, même si certains l'ont été pendant les JO, c'est qu'en fait, Paris captait beaucoup de matériel, de ressources humaines, notamment en termes de sécurité. Ce qui fait qu'il y avait plus de demandes que d'offres pour les événements qui étaient un peu avant les JO et un peu après, c'était tendu. Et tout ce qui est rare est cher. Donc les prix ont augmenté, les événements ont eu des grosses augmentations de budget, qui étaient prévisibles en partie, qui ont été prévues en partie, mais pas autant. Quand on ne peut pas équilibrer un événement, on est obligé de faire des choix, des tailles. Donc c'est là où moi je suis moins essentiel, puisque la scénographie, le décor, c'est comme la com. Il y a plein de sujets comme ça dont on peut se passer en fait. Hein. Un festival, un concert, c'est une scène, des artistes et techniciens qui vont autour et ça fonctionne. Donc le reste c'est accessoire. Enfin, accessoire. On peut faire sans. Donc quand il faut faire des économies, c'est là qu'elles se font. Donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière en partie. Donc c'est pas des projets qui ont été forcément annulés, décalés, reportés pour 2025. Donc là, ce qui se passe avec les subventions, le retrait des subventions, fonctionnement de la région pour beaucoup, beaucoup de structures, eh bien moi, en fait, ça potentiellement m'ampute de 90% de mes clients. Alors pas 90% de mon activité, mais 90% de mes clients. Ce qui fait que mon téléphone sonne déjà depuis 2 semaines et je travaille déjà depuis quelques mois sur des projets qui vont soit ne pas se faire, soit se faire différemment. C'est revu à la baisse. Enfin, là, ça bouscule tout. Et c'est d'une violence assez terrible.
Qu'est-ce que tu ressens justement, toi qui...
La colère. Je suis très en colère.
Alors, quelles sont tes projections? Tu as dit t'être déjà réinventé en période de Covid. Aujourd'hui, c'est presque un troisième coup de massue. Est-ce que c'est celui de trop?
Ça fait beaucoup. J'ai envie de dire, il y en a marre, mais enfin, je ne vais pas faire mon caliméro. Hein. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui le vivent aussi comme ça. Hein. Moi, je fais de la scéno, mais après, il y a énormément d'entreprises en fait, qui travaillent pour les événements, pour le milieu culturel, les salons. Ça, en fait, c'est beaucoup d'entreprises, c'est beaucoup de compétences. Hein. Ça va de l'hôtelier au restaurateur, imprimeur, enseigniste, loueur de matériel divers, son, lumière, loueur de mobilier. Enfin, les événements, c'est loueur de tente. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup d'entreprises, en fait, qui sont clairement, directement impactées par ces décisions, qui sont soudaines, rapides, et qui s'avèrent, là, aujourd'hui, assez violentes, quoi. C'est beaucoup d'emplois, en fait. Je suis seul, c'est pour ça que j'arrive à me réinventer, j'ai cette souplesse, mais j'embauche quand même une vingtaine de personnes dans l'année sur différents projets, quelques CDD. Mais après, il y a pas mal d'entreprises qui ont des salariés à l'année. Là, je vois que dans le milieu, on prévoit, sur les régions Pays de la Loire, dans les entreprises qui travaillent dans le secteur, c'est quasiment 2700 emplois qui vont être supprimés instantanément. Je parle que du monde de l'entreprise, hein. Mais ça va être instantané et radical. Puisque ça a clairement... c'est une histoire de termes, on parle de budget de fonctionnement. Alors effectivement, ça ne va pas forcément tuer les structures, elles vont se réinventer, mais en fait, les dommages collatéraux vont être importants. Et quand je dis ça ne va pas tuer les structures, si, ça va en tuer quelques-unes, ça va tuer des événements, ça va tuer des emplois dans ces secteurs-là, dans ces structures-là, mais pour toutes les entreprises qui gravitent autour et qui travaillent, ça va être la même.
On a pu entendre parler d'un risque d'une certaine uniformisation des propositions culturelles. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens ? Tu crains ?
Le risque, c'est de créer du vide, hein, un grand, grand vide, d'empêcher l'accès au plus grand nombre. C'est assez difficile d'imaginer ce qui peut se passer, mais les gros événements, les grosses entreprises vont pouvoir sortir leur épingle du jeu. Mais c'est tout le reste, en fait. C'est le côté artisanal, en fait, de cet environnement, en fait, qui va avoir très mal. Oui, oui.
Comment est-ce que peut-être le citoyen lambda, entre guillemets, peut soutenir, peut aujourd'hui s'impliquer pour soutenir, pour aussi porter vos voix ?
Alors, il y a une pétition qui circule, hein, qui est en ligne. Il faut parler aux élus, hein, de sa commune. Ça va avoir beaucoup d'implications, hein, beaucoup de spectacles pour les scolaires, beaucoup d'animations, d'interventions vont être mis à mal. Hein. Il y a déjà des endroits où ça y est, ils sont en train d'annuler pour 2025, donc. Quand j'entends que c'est de l'argent public qu'il ne faut pas dépenser, qu'il faut se retourner vers l'investissement pour les entreprises, mais c'est de l'investissement aussi pour les entreprises, puisque c'est beaucoup d'entreprises derrière, beaucoup d'emplois. Pour moi, c'est pas de la dépense publique, c'est vraiment de l'investissement. Et qui a une double fonction noble, c'est de pouvoir se rapprocher du plus grand nombre, des plus jeunes et dans tous les fins fonds de campagne. C'est aussi le monde que l'on souhaite tous. Si demain, il faut habiter dans une grande ville pour pouvoir aller voir des spectacles, dans des grands lieux, ou s'il faut beaucoup d'argent, puisque forcément, tout coûtera le double. J'entends aussi souvent parler de culture pas rentable. C'est rentable, la culture. C'est vrai que le denier public qui est mis dans un spectacle, le spectacle en lui-même n'est peut-être pas rentable, mais ça crée de l'argent, ça génère de l'argent. C'est tout un écosystème. On le dit, on le redit, ça participe plus au PIB que le secteur automobile en France. C'est pas un caprice. Alors, je parle que de la culture, mais bon, vous voyez qu'il y a plein d'autres secteurs qui vont être impactés. Le sport, l'agriculture aussi... Et le social, surtout. Je suis très pessimiste. Ce tableau, je le trouve trop noir. Vraiment trop noir. Voilà. On se réinvente toujours, mais c'est triste. Je trouve ça triste, simplement. Et donc là, c'est au jour le jour. Donc on verra demain.
Merci Jérôme de nous avoir partagé ton parcours, les coulisses de ce métier, puis ton regard et malheureusement aussi tes craintes. Merci.
Merci à vous.
On arrive au moment de l'agenda culturel de la semaine et alors pour certaines structures, les dernières dates de 2024 ont déjà eu lieu. Mais ce soir, c'est la toute dernière du Carré à Château-Gontier et c'est une date qui vous propose du rire. Écoutez Maëlle Grenier vous en parler.
On va terminer juste avant Noël, le vendredi 20 décembre, avec Pierre Thévenoud, qui est notre date de stand-up humour que l'on propose chaque année. Dans ce titre, Pierre Thévenoud est marrant, virgule, normalement. Voilà, il laisse le doute. Et je peux vous dire que le doute, il n'y en a pas, parce que c'est vraiment un artiste remarquable du stand-up. C'est, comme on le dit là dans, dans la présentation sur le site ou sur la plaquette, c'est un homme qui se présente de façon extrêmement modeste, extrêmement, on va dire, provinciale, et il le revendique. Et je l'ai trouvé pour le coup hyper attachant, un artiste très libre, comme on dit, dans le sens, une liberté assez désarmante. Voilà. Il a une aisance au plateau qui fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de douceur quelque part dans, dans cet homme-là, qui vient de la province, il se revendique de là, puisqu'il vient de Poitiers, et il en parle avec beaucoup de drôlerie, et sur sa montée à Paris, et puis ses essais en tant qu'artiste, et ses échecs, et ses amours, et ses déboires, évidemment. Tout le monde s'y retrouve, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse dans cet homme-là. Voilà, quelque chose qui, je pense, qui sera assez apprécié des spectateurs. C'est cette capacité à se mettre au niveau de tout le monde, mais il le fait, pour le coup, c'est pas construit, c'est pas inventé, c'est pas fabriqué, c'est très libre, très naturel. Et il a une capacité, je trouve, à improviser, notamment avec la salle, dans un attachement aux gens. C'est-à-dire qu'il questionne les gens, mais on sent que c'est pas forcé. Il aime dialoguer avec les gens, s'intéresser à ce qui se passe là, qui va se passer à Château-Gontier, ce jour-là, devant lui. Il a une liberté de ton qui est assez réjouissante. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas trop tarder à réserver, parce qu'évidemment, ça fait partie des dates qui sont quasi en pleine. Mais voilà, allez-y, franchement, ça devrait bien se passer.
Et puis on termine ce bref agenda avec un petit coup d'œil sur janvier, ce qui nous attend au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe.
Donc à L'Entracte, nous recevrons Nuit Incolore le samedi 11 janvier 2025, date importante en musique actuelle de cette saison, puisqu'on accueillera donc Théo qui vient défendre son album qu'il tourne depuis presque 2 ans maintenant, La Loi du Papillon, qu'il a agrémenté depuis novembre d'un second album, La Note Noire, et qui trouve toujours autant de succès auprès de son public jeune. Donc nous, c'est une date à L'Entracte qu'on est heureux de supporter, parce qu'on sait qu'on va vers un public jeune qu'on n'a pas tout le temps dans nos murs. Une date qui s'annonce bientôt complète, il ne doit rester qu'une centaine de places. On a donc décidé d'accueillir cette tournée, La Loi du Papillon, qui tourne de longue date depuis la sortie de cet album, de ce jeune chanteur suisse qui a trouvé écho dans une nouvelle génération, notamment au moment de la Covid, qui est dans un univers assez mélancolique, mais qu'il défend avec énergie et qui répond à pas mal de codes de cette génération, on va dire, de jeunes majeurs ou lycéens. On espère réunir tout le monde pour cette première date de 2025 à la scène Joël Leteul.
C'était votre dernière agité du local avant une semaine de pause auprès du sapin de Noël. Merci à Jérôme Loget d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour son partage. Votre soirée aujourd'hui commence à 19h avec Dance Hall Social Club et sera ensuite suivie à 20h de Tempus Fugit avec Fred et Plom. Un petit coup d'œil comme chaque vendredi sur le week-end. Rock Dreams, ce sera samedi à 13h et l'émission fait un focus cette semaine sur le groupe Eldon. Et votre soirée de dimanche commence à 19h avec L'Ennui et Oli. On retrouve Madame Pau, Monsieur Blancpain, Monsieur Ladoff, Monsieur Le Prêtre, Monsieur Kaya, Monsieur Ich et Oncle Ben, ainsi que Monsieur Ilan. Bien sûr, à la technique, je n'oublie pas de citer Monsieur Titinovich. Ça se passe donc dimanche à 19h et ensuite à 21h. Eh bien, ce sera Jazz Attitude qui termine, comme chaque semaine, le week-end en beauté. Voilà, moi, je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, eh bien, cueillez chaque moment de tendresse, laissez la lumière des fêtes réchauffer vos cœurs et rêvez à tout ce que demain peut offrir. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.